Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Salut.
Et je suis aussi avec Exerve.
Salut.
Comment qu'ils vont mes petits champions d'Apex là?
Eh ben, ça va pas ça mal, va. Moi je me fais carry par, par Max qui est bien plus fort que moi et en même temps il a... T'as combien déjà? 1350 heures je crois?
C'est ça, j'ai joué 10 jours sur 7.
Il passe sa vie dessus.
Non mais c'est bien qu'on ait quand même... On a pris le temps quand même de faire l'épisode au milieu de tout ce Apex donc... voilà, je pense que les gens peuvent quand même nous remercier.
Non mais tu vois, on reste, non mais c'est parce qu'on reste, on fait de la veille en fait, hein. Je veux dire, c'est pour le travail, hein. on reste à jour, on s'intéresse à l'actualité, voilà, pour pouvoir en parler, c'est peut-être ça. Dans des mois.
Alors, j'allais dire, même en sachant pertinemment qu'un épisode sur Apex, ça risque d'être compliqué.
Ouais, non, les épisodes sur les... plus vous avez déjà fait ça, vous, les épisodes sur les Battle Royale.
Il semble être une
excellente émission YouTube qui s'appelle Game Next Door, que je vous recommande.
Suivez-nous, donnez au type.
On avait prévu Apex, on avait tout prévu.
Oui, c'était, ouais, à la fin, un an avant, on était dans les clous, hein, effectivement.
Bravo.
Alors cette fois-ci, on se retrouve pour parler de Her Story, et pour la première fois, ce n'est pas forcément une surprise pour toutes les personnes qui nous écoutent, puisqu'ils font peut-être partie du club de lecture Fin du Game, puisque je le rappelle, au dernier épisode, on a lancé un salon Discord lié à Fin du Game, et c'est pas seulement un salon Discord juste pour faire joli, comme ça, pour animer un peu la communauté, non, c'est vraiment un espace, en fait, dans lequel on peut échanger des épisodes dont on a parlé, mais aussi des épisodes dont on va parler, puisqu'on met à chaque fois dessus les deux prochains jeux, en fait, dont on va parler. Et alors je sais pas ce que vous en avez pensé vous messieurs, mais moi j'ai été vraiment hyper agréablement surpris à quel point la maillot a bien pris sur ce Discord quoi.
Ouais non, c'est cool de voir les gens un peu partager que ce soit leurs analyses ou tout simplement leur point de vue sur des épisodes qui sont déjà passés ou les futurs, parce que t'as des gens qui ont fait Her Story ou même refait, il me semble qu'il y a une personne qui a refait Her Story, donc c'est toujours vraiment cool à voir.
Sachant que je précise que on est sur un système de choix, c'est-à-dire qu'on va pas vous spoil. Si vous rejoignez le Discord, vous allez voir tous les anciens épisodes. Vous pouvez choisir d'aller ou non dans chacun des salons, et vous pouvez choisir ou non de regarder le nom des deux prochains épisodes, puisqu'à chaque fois on vous donnera le nom des deux prochains, puisque le but du club de lecture, c'est qu'on vide nos backlogs tous ensemble dans la joie et la bonne humeur au détriment de Steam, hein, qui va évidemment couler grâce à nous, puisque vous êtes déjà plus de, on était hier avant l'enregistrement, je crois un peu plus de 250
ouais,
sur Discord.
Ça, exactement.
C'est énorme, merci beaucoup.
Ouais, moi j'ai été surtout, je voulais souligner parce qu'il y a vraiment beaucoup de bienveillance en fait dans les échanges, beaucoup pas d'écoute mais de lecture on va dire, les gens se laissent parler, rebondissent sur les idées et c'est fait de manière très positive et ça c'est vraiment agréable à voir dans un salon Discord et on est super content d'avoir pu en tout cas créer ce petit espace avec Fin du Game. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de Her Story, on va parler de son histoire, de sa narration et puis aussi pourquoi et comment ça marche, c'est ce qu'on va faire dans Fin du Game. Alors comme d'habitude, avant de démarrer l'émission, on va recontextualiser un petit peu la sortie du jeu, qui est un petit peu le jeu d'un seul homme, Sam Barlow, et au regard de son parcours, j'ai l'impression que c'est un jeu qui est un petit peu l'aboutissement de tout ce qu'il a essayé de faire finalement dans sa carrière de game designer.
Ouais, Sam Barlow, il avait été déjà un petit peu connu fin des années 90, où il rédigeait des aventures textuelles. Il y en a une qui est un peu sortie du lot, qui s'appelle Aisle, donc A-I-S-L-E, qui veut dire rayon ou allée de supermarché. Et il y avait déjà un petit peu cette notion où t'avais quelques infos sur le protagoniste, du type « Ah, ça lui rappelle Rome », et si tu tapes genre « Remember Rome », et ça va lui raconter, il va dire « Ah, vous vous souvenez de cette semaine passée avec Sarah, machin », et après tu peux mettre « Remember Sarah », et c'est des choses qui sont assez évidentes en fait, qui vont de soi. Donc on voit déjà un certain écho à Her Story. Bon après, par contre, ce qu'il a fait plus tard, c'était un schéma, enfin je dis ça comme si c'était une mauvaise chose, mais ensuite il a bossé surtout chez Climax Studio, où il a été connu pour Silent Hill Origins et Silent Hill Shattered Memories, qu'on a beaucoup retenu. C'est assez intéressant, moi c'est des jeux que je connais pas du tout, mais Shattered Memories il a été retenu parce que le jeu en fait il dresse un portrait psychologique du joueur, donc d'une part en posant des questions via un psy en fait qui te pose des questions sur toi, mais aussi il analyse ton comportement, est-ce que tu décides d'analyser des objets, de les laisser, de faire des détours ou d'aller directement en chemin, et en fait t'as des pièces qui changent d'atmosphère, t'as des ennemis qui changent de design, ou t'as carrément des scènes de tir qui sont remplacées par des courses-poursuites en fait, donc le jeu s'adapte à ton profil psychologique. Et
donc c'était là... pour jouer sur la peur ou genre les ennemis ont une certaine tronche si t'as peur des pyramides, ils ont une tête en forme de pyramide, bah, un truc comme
les,
ça.
Les ennemis, j'ai... ouais, c'est un peu ça, mais c'est des... Moi j'ai juste vu les photos, tu vois, comme j'ai pas fait le jeu, mais c'est vrai que bon, c'est un peu version A, B, C.
D'accord. Okay.
Mais oui, t'as un monstre qui a une tête à un moment juste très creuse, t'en as un autre qui a une forme très géométrique, un peu bizarre. Alors, ouais. Bon, n'étant pas psychologue, je sais pas si ça signifie vraiment quelque chose d'avoir des monstres comme ça, mais en tout cas, il y a un petit peu ce côté exploré, peut-être. Parce qu'il y avait un petit peu en toi, il y avait un jeu qui répond à ça. Et donc pendant qu'il bossait là-bas, il avait un peu l'idée, tu vois, de faire un jeu d'enquête, ou en tout cas quelque chose l'attirait un petit peu dans ce côté un peu enquête policière et surtout interrogatoire. Il y avait une série qui regardait pas mal qui s'appelait Homicide Life on the Street. Et donc c'était vraiment le moment de l'interrogatoire, en fait, pour lui, c'était un moment assez fort où t'as d'un côté les enquêteurs qui ont leurs indices et qui vont essayer de presser un peu le jus, tu vois, de la personne. Et de l'autre, comme c'est une émission, vraiment l'acteur qui joue le suspect ou la victime et qui va pouvoir vraiment sortir son meilleur jeu, en fait, faire parler du coup le personnage et avoir les détails un petit peu qui ressortent. Donc il y avait un petit peu cette idée qui lui trottait dans la tête. Et en bossant sur le jeu Legacy of Kain, je trouve que c'est quelque chose Sun.
Dead Sun, non mais c'est pas ça. Quelque chose. C'est... Non mais là tu touches à mon petit cocoro là.
Pas exervé là.
Attends, ah oui.
C'était une attente pour toi.
En fait ça fait partie de... Quand il y a eu Legacy of Kain Défiance qui était censé être la fin, on avait eu plein de rumeurs en fait pour la série. Parce que du coup, quand Crystal Dynamics a été racheté par Square Enix, on savait pas trop ce qui allait se passer avec la série Legacy of Kain. Alors on a eu l'espèce de merde immonde qui s'appelait Nosgoth, l'espèce de free-to-play pseudo-hero-shooter qui voulait surfer sur la vague de ces trucs-là.
D'accord.
Et on a appris, en fait, beaucoup plus tard, bien après son annulation, à l'époque, c'était encore sur NeoGAF, l'existence de Legacy of Kain Dead Sun, donc, Sam Barlow était censé être producteur dessus, qui devait justement revenir un peu sur l'univers et proposer une nouvelle lecture. C'était assez étrange.
Mais voilà, ça ne sortira jamais, donc malheureusement.
Ouais.
Et c'est là-dessus qu'il a rencontré, en fait, l'actrice qui va bosser avec sur Her Story.
C'est ça, ouais, Viva Seifert. Donc ça se prononce Seifert, j'avais vu apparemment.
D'accord, okay.
On aurait l'impression que c'est Seifert, mais... non, petit piège, probablement un piège de Sam Barlow qui avait tout prévu. Et donc il a vu donc son audition, en fait, il a vraiment été captivé par sa prestation, et c'est là qu'il a commencé vraiment à avoir un peu le déclic, il recolle un peu les différents morceaux ensemble, où là il voit vraiment une femme interrogée, et il se rend compte que la prestation d'acteur, ça reste quelque chose en fait qu'on peut vraiment faire dans du jeu vidéo. Et comme lui il avait potentiellement déjà le projet de partir en Indé, de toute façon tout ce qui est mocap et tout, c'est trop coûteux, il a pas forcément les reins assez solides pour faire un jeu comme ça, et du coup il a décidé de partir avec ce qu'on appelle donc le full motion vidéo, qui est le fait donc de filmer des acteurs. Alors ça peut être fait en gros, grosso modo, de façon différente. Dans Her Story c'est juste de la vidéo, donc c'est juste une personne filmée, mais la full motion vidéo ça recouvre aussi l'aspect technique où ton personnage, en fait, au lieu d'être quelque chose qui est animé, c'est un acteur en fait ou une actrice qui a été filmée et qui fait des mouvements qui ont été filmés en fait et qui répondent du coup à tes inputs. Voilà,
pensez Mortal Kombat tout simplement. Ou Wing Commander, ou tous ces jeux-là, forcément, voilà. Ça a été une grande, grande période du jeu vidéo dans les années 80-90, le FMV. Il y a eu tout un tas de trucs avec l'arrivée du Laserdisc et tout ça. Enfin,
Moi, j'ai le souvenir de mon grand frère qui jouait à Phantasmagoria.
Ah oui, tout à fait.
D'horreur,
Qui était dans ce délire-là aussi. Et là, en fait, ce qu'il a fait également, parce que Viva Seifert, en fait, elle n'est pas que actrice, elle est même musicienne au départ.
Et gymnaste.
Voilà, elle a énormément de talent. Et il expliquait également qu'il s'est vraiment, en fait, fasciné pour une émission. Je sais pas si t'as vu ça dans la...
Ouais, de télé-réalité.
Ouais, de
peu,
télé-réalité, c'est ça, en fait, où les États-Unis se sont fascinés pour l'interrogatoire d'une femme qui était filmée en permanence en dehors des moments d'interrogatoire et pendant les interrogatoires avec la police, parce qu'elle était accusée d'un meurtre de je sais pas qui. Et il expliquait en gros que comme statistiquement une femme meurtrier c'est une aberration, parce que c'est un peu moins d'un meurtre sur 10 qui est commis par une femme, du coup c'était assez étrange la fascination morbide qu'il y avait pour les gens, et évidemment il s'est projeté là-dedans et il a commencé à se dire que tout le monde n'avait pas le contexte global et tout le monde commençait à faire des projections en fait sur cette histoire là.
Et c'est un jeu qu'il a fait assez rapidement, je crois. Il expliquait qu'il a passé vraiment 6 mois à faire des recherches, à lire des trucs, à vraiment s'imprégner de toutes ses références et aussi de ce truc de télé-réalité, et après il a passé vraiment 6 mois à bosser vraiment sur le jeu. Je crois qu'il a été fait avec Unity, et je crois que la performance de Viva c'est sur quelques semaines,
c'est moins d'une semaine.
Moins d'une semaine, d'accord.
Je crois que c'est environ 5 jours. alors, apparemment intense, mais en soi, si tu mets, donc évidemment, ça c'est que ce qu'on a sous les yeux, mais si tu mets tout, les interviews bout à bout, c'est une heure et demie à peu près.
D'accord.
Bon, après, on sait pas combien de choses ont été enlevées, répétées, refaites et tout, mais c'est un peu moins d'une semaine. Donc, c'est vraiment, ouais, de toute façon, le boulot, c'est vraiment l'écriture en fait, du jeu, c'est évidemment ce qui représente la grosse partie du travail. Comme tu disais, c'est beaucoup renseigné, que ce soit sur des interrogatoires déjà existants, parce qu'il y avait aussi une autre affaire d'un mec qui avait tué, je crois, son père, et il se rendait compte en lisant, tu vois, les différents interrogatoires du mec, que t'avais des thèmes qui ressortaient, en fait, notamment l'argent. Il trouvait que dans les rendus d'interrogatoire, ça parlait beaucoup d'argent, avant de vraiment connaître le motif, en fait.
Ouais,
donc
ouais.
Il disait déjà, à partir de ce que la personne dit, tu peux trouver des thèmes un petit peu récurrents.
Oui, ouais, ce qu'il racontait, c'est que quand tu te mets dans les interrogatoires, en fait, ce qui ressort, c'est pas seulement l'enquête, mais c'est vraiment les gens déballent un peu leur vie, quoi. Ils t'exposent vraiment les problèmes qui leur sont assez profonds, quoi, et qui marquent leur vie. Et effectivement, ouais, il s'est imprégné de tout ça, et puis aussi de livres. Et il y a un livre, alors je m'excuse, je me souviens plus du titre, mais effectivement, tous les paragraphes étaient complètement dans le désordre. Et en fait, si tu lisais vraiment juste en feuilletant comme ça, justement, tu pouvais recomposer un peu toute l'histoire. Donc ça aussi, ça a été, ça a aussi influencé son travail. On va peut-être passer maintenant à l'histoire de Her Story, qui fonctionne vraiment comme un puzzle, c'est-à-dire qu'on a tous les mêmes pièces, mais par contre, on les a, chacun et chacune d'entre nous, les a recollées dans un ordre complètement différent. Mais si on met ça un petit peu de côté, il y a quand même une trame narrative qui est pas si compliquée que ça, en tout cas, en la replaçant chronologiquement, on arrive quand même à dresser une histoire finalement pas si compliquée. Alors, on incarne, on le saura bien plus tard, mais on incarne une jeune demoiselle qui est devant un poste d'un ordinateur. Et cet ordinateur lui donne accès à des archives d'un interrogatoire, l'interrogatoire d'une femme, mais sous forme très très morcelée, c'est-à-dire que c'est juste des petites séquences de... allez, ça va quoi, de 5 secondes à 2 minutes, quoi, au maximum.
3 minutes maximum à chaque fois.
Et en fait, pour naviguer entre tous ces petits morceaux, eh bien, on utilise des mots-clés. Et le premier mot-clé qui nous apparaît quand on lance le jeu, c'est « murder ». Et avec ce mot-clé-là, en fait, on va avoir accès à 5 vidéos et on va vite comprendre que ça va tourner autour d'une histoire de meurtre. La personne de Simon qui a été tuée. Et on comprendra très vite que c'est le mari de la personne qui est interrogée, donc la femme qui est interrogée. Et donc on va se lancer, on va naviguer un petit peu dans ces eaux-là, en fait, en se basant sur les mots-clés, la personne, la femme, elle parle, et en fait on va se baser sur ce qu'elle dit, on va prendre un mot, on va le rentrer dans la barre de recherche, et ça va nous donner accès à d'autres trucs.
Ouais, c'est ça,
d'ailleurs. Mais c'est le système de recherche par mots-clés, tu vois, c'est un système d'association d'idées, où en gros, elle va, dans une petite séquence, elle va nous parler de ses vacances, alors on va peut-être essayer de taper vacances, mais elle va peut-être parler de sa grand-mère, et donc on va taper le prénom de la grand-mère, et en fait, toutes les vidéos, Sam Barlow, il a anticipé, il a associé chaque vidéo avec un certain nombre de mots-clés et du coup quand on va taper ce mot-clé-là, toutes les vidéos qui ont ce mot-clé-là vont sortir mais dans un certain ordre qui est toujours prévu par lui et on ne peut afficher donc que 5 vidéos maximum, ce qui force en fait le joueur à affiner petit à petit sa recherche.
Oui, les mots-clés, c'est vraiment des mots qu'elle a prononcés, tu vois.
Exactement,
dans le clip, quand elle parle, en fait, c'est sous-titré. Et si elle a dit le mot qu'on tape dans le moteur de recherche, ça affiche les clips, en tout cas maximum 5 clips, où elle prononce exactement ce mot.
Donc on se lance un petit peu dans cette enquête. Au début, on voit un petit peu flou, on est un petit peu submergé par toutes les informations qui peuvent nous venir. Mais on va quand même arriver au premier gros twist du jeu, c'est cette histoire de jumelles, en tout cas de dédoublement de personnalité, on sait pas trop, mais en tout cas, il y a deux personnes qui parlent, soit Anna, donc ça c'est la personne a priori qui nous parle, mais aussi peut-être Eve, ça on l'apprendra tout à la fin, mais voilà, il y a deux personnalités qui ressortent, il y a une histoire de jumelles qui commence à se mettre un peu en place, en tout cas c'est ce qu'elle nous racontera à la fin, et des jumelles qui auraient été séparées à la naissance, puis au final elles se seraient rejointes, elles auraient vécu dans la même maison et elles auraient partagé la même vie, c'est-à-dire que en fait elles alternaient chacune, elles partageaient, il y en a une qui allait à l'école pendant que l'autre elle jouait à la Super NES, j'en sais rien, et en fait elles alternaient comme ça, et elle partageait tout, donc l'école, même les parents ne savaient pas qu'il y en avait deux, et puis même leurs petits copains, donc elles ont vraiment vécu la même vie, mais à deux, jusqu'au moment où Anna a rencontré Simon, et elle en est tombée amoureuse, et cette fois-ci, elle a plus voulu le partager avec sa sœur. Et c'est là que va commencer un petit peu les pas forcément les problèmes, mais en tout cas, elle va vouloir garder Simon pour elle, elle va tomber enceinte de Simon, mais elle fera une fausse couche. Pendant ce temps aussi, autour de ces eaux-là, il y a la mort des parents, donc de Anna. Il meurt, ses parents, donc c'est pas trop la joie. Et pendant que c'est pas trop la joie, en fait, Simon va évidemment tomber sur Eve, qui ne vivait plus avec Anna, et il va aussi en tomber un petit peu amoureux, il va être un peu fasciné par la ressemblance, puisque lui, il sait pas qu'il y a une sœur jumelle, puisque bon, ça a toujours été caché.
Et elle, elle portait une perruque, hein, pour le
effectivement, détail, voilà, elle portait une perruque blonde.
Incroyable. Il s'est rendu compte de rien.
Le twist.
Clark Kent avec ses lunettes.
Et forcément, bah, il va tomber amoureux, ils vont aussi avoir une relation, et elle va aussi tomber enceinte, mais cette fois-ci, bah, elle va garder. Et forcément, bah, Anna va finir par l'apprendre, non seulement bah, que sa sœur est enceinte, mais que c'est aussi Simon le père. Et là, forcément, elle va pas être très très contente. Hein, et ce qui va vraiment faire déborder le vase, c'est que, en fait, Simon va décider de leur faire un cadeau. Il va leur offrir à chacune un miroir qui serait unique, mais il n'est pas si unique puisqu'il l'offre à chacune d'elles. Puisqu'il faut le savoir, Simon fabrique des miroirs, hein, il fabrique des vitres et des trucs comme ouais. ça, c'est son métier. Et au final, bah, ça va vraiment lui faire péter un câble à Anna, elle va casser le miroir, elle va lui mettre un gros coup de schlasse dans la jugulaire.
C'est noté sur l'affiche. Hein.
Oui, c'est ça.
C'est vraiment le mot prêt. Hein. Bravo. Non, mais je savais pas si t'allais l'utiliser.
C'est pour B2O, c'est pour lui. Il se reconnaîtra quand il nous écoutera. Et donc, elle va tuer Simon. Et en fait, Eve va débarquer et elles vont s'arranger toutes les deux bah, pour cacher le corps. Elles vont le cacher dans la cave ou dans le grenier, je ne sais plus, dans un sac poubelle. Et puis, elles vont essayer de s'organiser finalement pendant l'enquête. Elles vont un petit peu alterner leur rôle pour pouvoir laisser le temps à Anna de fuir et de disparaître. En tout cas, c'est ce que nous raconte finalement Eve à la toute fin. En fait, les interrogatoires sont dans un sens assez chronologique. Et en fait, à la fin, le dernier interrogatoire, Eve lâche ce morceau ou en tout cas, elle raconte toute cette histoire-là de jumelles, etc. C'est un petit peu ça.
Et ouais, au final, c'est ça. Je crois qu'on apprendra... Sachant que la particularité, c'est que ce clip-là, le dernier clip, en fait, mm-hmm. de la base de données, il est donné dès le début,
ouais,
avec le mot-clé murder, évidemment. Mm. Et du coup, en fait, dès le début, tu sens un petit peu ce truc de twist-là. En fait, elles se sont créées un alibi. Elles ont fait en sorte qu'il se trouve qu'il y en avait une des deux qui n'était pas du tout à cet endroit-là, qui était à Glasgow. Et donc, elles ont tout fait pour que, justement, brouiller les pistes pour la police.
Mmh. Oui, de mémoire, enfin, c'est du détail, mais il y en a une qui était à Glasgow à un moment donné, pas exactement pendant le meurtre. Et en fait, je crois qu'il avait une montre, en fait, elles l'ont mise genre à l'heure... où elle était à Glasgow,
ils ont cassé la montre. Oui, il y a une histoire avec la montre,
Il y a des petits détails, de toute façon on en reviendra un peu
justement. Et on apprend aussi à la fin que la personne qu'on incarne, c'est Sarah, donc qui serait la fille de Simon et Eve, et c'est en fait elle dont on voit le reflet dans l'écran de l'ordinateur, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Effectivement, il y a une esthétique qui est assez particulière, on est sur un truc un peu années 80-90, avec vraiment un espèce de vieux moteur de recherche. Moi, ça m'a rappelé quand j'allais chez mon père au cab et que je traînais sur son ordinateur. Et en fait, il y a toute cette esthétique-là, mais par contre, parfois, il y a des espèces de petits flashs de gyrophares, j'allais dire les pimpons,
mais non, c'est des
j'allais passer pour un débile.
C'est des néons.
Voilà, des néons. Et il n'y a pas des. Je crois qu'il y a des gyrophares aussi.
Peut-être un gyrophare qui passe, ouais.
De la popo. Ouais. Et donc, on voit le reflet de Sarah, en fait, devant l'écran de l'ordinateur.
Oui, il y a plein de choses, en fait, qui nous mettent dans l'ambiance. Pas juste nous, le joueur qui regardons l'écran, mais vraiment on incarne une personne qui est devant un écran. Quand tu lances le jeu, en fait, t'as le titre Her Story qui fade doucement et t'entends en fait vraiment un son d'allumage en fait d'une unité centrale. T'as ces néons que t'entends aussi clignoter de temps en temps, les gyrophares tu les vois et tu les entends passer, et comme tu dis, parfois ça crée un peu le reflet devant tes yeux. Donc et t'as des bruits aussi ambiants en fait, vraiment des néons déjà, même pas que quand ils clignotent, mais
ouais,
ils font l'espèce de
clic, ils teintent en fait, parce que c'est des néons quoi, ils ont des petites sautes, et évidemment il y a le vombrissement, enfin limite moi quand j'étais devant, ayant grandi du coup dans une brigade, dans la gendarmerie, je sentais le tabac froid et le café dégueulasse.
Oui,
ça m'a vraiment rappelé cette ambiance là
avec le sound design, il arrive vraiment à recréer cette atmosphère,
on est vraiment projeté dedans.
T'as un bruit de clic quand tu cliques, le clavier il fait du bruit quand tu tapes, donc t'as vraiment
t'entends le disque dur qui tourne, etc.
T'entends Jean-Louis la compta qui dit t'as pas un café au fond,
ouais, t'entends des espèces de petits brouhahs de loin, mais on sent que la jeune fille elle est toute seule dans sa pièce, donc
même si on le voit pas au début d'ailleurs qu'il y a une jeune fille au début, on croit que c'est nous finalement qui a un côté méta,
parce qu'il y a juste une espèce de petite ombre, et en fait c'est petit à petit qu'on va distinguer ça, tout ce dispositif là au niveau esthétique, que ça soit visuel ou sonore, moi j'avais trouvé ça vraiment extrêmement bien fait, parce que ça fonctionne en quelques instants, pouf, tu es projeté dans, parce que du coup c'est censé être un meurtre qui s'est passé en 1994, et donc en fait le postulat de départ, quand tu lances l'ordinateur, t'as un petit fichier texte qui t'explique que bon, à l'époque les bases de données étaient un peu étranges, tu vois, les gens étaient un peu Enfin, c'est un peu les blagues, c'est des Américains avec les années 80 où ils étaient tous sous coke. Parce que tu te dis, bah, pourquoi ils ont morcelé une interview en plein de petits morceaux.
Là, pour moi, on en parlait au dernier épisode, on est dans la suspension d'incrédulité. Là, parce
ouais, que ouais, il faut l'accepter, ouais, tu vois, ça, sinon ça marche pas du tout.
Cet outil est aberrant.
Mais ça. Bon. Ils expliquent bien les règles dès le départ, ils te disent bah, il faut que tu cherches avec des mots-clés, on peut afficher que les 5 résultats, patati, et du coup, ben, en fait, rapidement, ben, tu te retrouves pris dans cette histoire-là. Quoi.
Ouais, bah, directement, il y a l'interludique, de toute façon, tu comprends vite, hein. Il y a le mot murder, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de tuto, en fait, dès le début. Enfin, vous, il me semblait que vous m'avez dit, vous aviez ouvert les fichiers texte dès le début, qui sont en fait, parce qu'il y a l'interface au début qui est au premier plan, et il y a un bureau en fait derrière ouais, avec des icônes et tout. Et c'est vrai que dès le début, t'as juste le mot murder. Et en fait, c'est à toi en plus de cliquer sur search, tu vois, de faire un peu le premier pas, enfin, de faire le deuxième pas en fait, et que tout s'imbrique naturellement. Et même sans lire le fichier texte, on peut déjà un petit peu comprendre comment ça marche. Même s'il y a des petites subtilités après, du type, si tu mets un mot entre guillemets, ça n'affichera que quand il n'y a que ce mot qui est dit. Donc il y a des petits outils à comprendre et que tu ne peux lire
ouais,
que dans
le fichier
texte. Il y a
plein de petits trucs, on peut associer deux mots également, pour essayer de réduire encore un peu plus. Le scope de la recherche, et on peut même intégrer en fait à l'intérieur d'une vidéo des mots-clés qu'on crée nous-mêmes. Donc
oui, vrai,
ça permet encore une fois de. Bah, en fait, c'est un jeu qui finalement a un gameplay très basique, mais qui a quand même pas mal de petites subtilités qui sont pas du tout données. Moi, étant un peu, on va dire, un peu étrange, je lis les manuels. Tu vois, je vois un fichier readme, je suis bête, je le clique dessus et je le lis pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, bah, j'avais lu l'explication de comment ça fonctionne.
Tu es cette personne qui lit les conditions d'utilisation avant de cocher la case.
Ça m'est arrivé. Ça m'est déjà arrivé, ouais.
Alors, pour revenir un petit peu sur l'histoire, quand on a discuté, quand on a préparé un petit peu l'épisode, ce qui est sorti, c'est qu'elle était un petit peu convenue. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a un petit peu présenté. Bon, moi, je suis peut-être pas aussi critique que vous, mais vous l'avez trouvé assez, finalement, pas bateau, mais convenu, quoi.
Ouais, c'est un crime passionnel, quoi. C'est une histoire. On en reparlera, mais c'est même prévu par Simon Barlow. Il voulait justement un truc dans lequel tout le monde puisse se projeter, parce que ben, vous avez déjà vu des films policiers, vous avez regardé NCIS, vous avez regardé Cold Case, vous avez regardé 23 millions de séries policières.
Il l'explique d'ailleurs, parce que pour lui, dans sa conf, il dit qu'effectivement, on a beaucoup de ce qu'on appelle de literacy en anglais, c'est-à-dire qu'on a cette connaissance de ce genre-là qui est très très forte en fait, et qui est ancrée dans une culture très très populaire en fait, parce que le policier, c'est le polar, effectivement, tu le dis, c'est ce qui a fait les belles heures de la télévision des années 90 jusqu'à encore aujourd'hui.
Bien sûr, ouais.
Et c'est quelque chose qu'on connaît très, très, très bien, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'il ancre son histoire là-dedans. Et puis après, il y a cette histoire de jumelles, de dédoublement de personnalité, on va revenir un petit peu après, mais ça aussi, bon, c'est des choses qui peuvent être un petit peu déjà vues. Alors, je sais pas si est-ce que vous avez, vous, des références, des trucs. Moi, pour le dédoublement de personnalité, bah, j'ai vraiment Mr. Jekyll et Dr. Hyde, je sais plus si c'est l'inverse,
oui,
mais
c'est vrai,
ouais, y a ça.
Bah, en fait, le coup des jumeaux qui se ressemblent avec un seul acteur qui joue les deux, tu vois, c'est un trope assez classique. Ouais, moi, je vais vous citer, j'ai un truc qui s'appelle Double Détente, c'est un film avec Jean-Claude Van Damme dans les années 80.
Voilà,
où il avait fait c'était Double Dragon, je sais plus, mais enfin, en gros, où il jouait justement lui-même deux acteurs avec des légères différences de personnalité. Bon, on pourrait citer Jumeaux avec Schwarzenegger et Danny DeVito, où là c'était en fait justement un film qui se moquait de ce trope-là, des jumeaux qui se retrouvent après des années de séparation, alors qu'évidemment Schwarzenegger et DeVito, ils se ressemblent pas du tout, mais pourtant ils sont jumeaux. Mais c'est juste pour dire que voilà, c'était un truc dans les années 80, c'était un trope assez classique. Et moi, ce que j'appelle les films de Ginette, donc c'est les films qui passent sur les chaînes classiques de 1 à 6, juste après les infos à 14h, c'est ces espèces de films directs ou télé américains ou canadiens qui sont filmés avec beaucoup de lumière, toujours des histoires dramatiques, beaucoup de films allemands. Ça prend souvent ce genre d'histoire-là avec des drames, parce que c'est finalement très simple à mettre en place en fait d'un point de vue production. T'as qu'un acteur et en fait il joue deux rôles. Waouh, tu vois, c'est facile.
C'est clairement, mais tu te dis, c'est vrai que venant d'un indépendant, du coup tu te dis, bon bah il y a une intelligence quand même dans la production de se dire, bon bah voilà, je peux en plus capitaliser, j'ai juste besoin d'une actrice pour faire mon truc.
Mais en soi, tu vois, le twist du ah, mais comment elle a fait pour être à deux endroits, à deux moments, et ben boum, c'est une jumelle, tu vois, en soi il est assez simple. Et c'est vrai que là en fait je peux pas vraiment citer d'exemple, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu plein de fois, tu vois.
D'accord.
En tout cas, c'est un des premiers trucs qui peut te venir à l'esprit.
Mais l'important, et ça c'est vraiment un truc qu'il a très bien compris et qu'il explique dans cette fameuse conférence de la GDC là qu'on mentionne, c'est que c'est pas l'histoire en elle-même qui l'intéresse, c'est la manière dont il va l'amener et la façon qu'il va pouvoir de l'exploiter avec le jeu vidéo. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est parce que ces histoires-là, bah, on les connaît déjà,
tout
a priori. En fait, il a justement expliqué qu'il a fait exprès de se baser sur des tropes très connues, sur des genres, il utilise du film noir, du film d'enquête, etc., pour que justement les gens, en fait, soient biaisés directement en rentrant dans le jeu et qu'ils se disent ah bah c'est bon, je suis à la maison, je sais comment ça va se passer, à un moment donné il va se laver, il va taper du poing sur la table, etc. Et du coup il va jouer de ça pour justement nous mettre dans cette espèce de, d'ambiance, de recherche, de quête où on va nous-mêmes faire fonctionner notre imaginaire et se laisser prendre à ces pièges.
Parce qu'on aurait pu se prendre la tête longtemps, tu vois, pendant ce podcast en disant « Mais si, c'est des jumelles !» Parce que Hugo et moi, on est plutôt team jumelles.
Ah, effectivement, ouais, il y a deux grandes théories. On peut les aborder maintenant. Il y a deux grandes théories qui ressortent. Donc, il y aurait l'idée comme quoi ce que raconte Eve à la fin, ce serait vrai. Ouais. Donc, cette histoire de jumelles séparées à la naissance et tout, qui sont alternées le truc. Et puis, il y a l'autre théorie qui serait « Non, en fait, Eve nous ment, et en fait elle a qu'une seule, elle a c'est un dédoublement de personnalité. Alors est-ce que c'est volontaire, pas volontaire, est-ce qu'elle en joue pas, ça je ne sais pas, mais il y a cette volonté de justement un peu embrouiller la police, de leur mentir pour leur faire dire à la fin, en fait de toute façon vous pouvez pas m'arrêter parce que c'est pas moi en fait, c'est ma sœur, mais en fait c'est un dédoublement de personnalité.
Il y a un peu deux approches du truc, où soit tu dis, parce qu'il y a quelques, alors nous, alors la team Hugo et moi appellerons ça des indices, sur certaines, parce qu'il y a sept interrogatoires en tout, sept moments où elle est interrogée, il y en a un où elle a un tatouage et d'autres où elle en a pas, et on voit vraiment son bras nu qui a pas de tatouage, un autre où elle a un bleu en fait sur une joue, et il y a un clip un moment plus tard où elle a plus de bleu et elle montre l'autre joue, elle dit ah oui mais je guéris rapidement et tout, donc voilà, nous on est plutôt team jumelle, mais c'est vrai qu'il faut il faut des causes dans la vie, tu vois.
Non mais le truc c'est qu'en fait toutes ces choses là en fait dans l'autre théorie elles peuvent être utilisées aussi.
Oui,
à
parce
bon
qu'en fait,
escient,
fait dans les, dans ça, les deux ouais. cas, moi c'est ça que j'avais trouvé vraiment fascinant quand j'avais refait le jeu, c'est quand j'en avais discuté à l'époque avec Boulap qui lui l'avait testé sur Gamekult, c'est que lui il était justement team jumelle et moi j'étais team dédoublement de personnalité, et qu'en fait on se rendait compte que tout ce qu'on pouvait dire s'annulait. Et qu'il y avait un nombre exact d'indices qui allaient dans un sens que dans un autre. Mmh. Tu vois, il y avait des faisceaux d'indices qui allaient dans un sens comme dans l'autre. Et en plus, dès qu'on commence à regarder un peu le jeu sur les thématiques qu'il aborde, bah oui, on retrouve en fait des explications qui peuvent aller... Tu vois, la balance, elle est toujours assez équilibrée, je trouve. Ouais. T'arriveras pas à me prouver que j'ai tort, et tout comme je ne pourrais pas prouver que toi, t'as tort. Et ça, c'est vraiment très difficile à atteindre comme ce point d'équilibre, et ça montre justement la force du jeu, et bien entendu, Sam Barlow, il en joue, parce que dès qu'il y a des interrogatoires, enfin, dès qu'il est interviewé, pardon, c'est les journalistes, tu vas parler ça se passe pas comme ça. Dès qu'il discute avec des journalistes, parce que le jeu est sorti en 2015, souvent, c'est la question qui ressort, tu vois, discretos, en plein milieu de série sur ses prochains jeux, et évidemment, il en joue, il en parle pas, quoi.
Et ce qui permet vraiment ça, en fait, c'est le fait qu'il pas de fin dans le jeu, il n'y a pas de fin officielle en fait, il n'y a pas de ah bah bravo c'est bon c'est fini, on l'a arrêté, on voit le mec qui arrête, tu vois, Yves,
le moment Scooby-Doo plus tard,
c'est ce qu'on se disait avec Max quand on en parlait, c'est en fait le jeu n'a pas une des deux solutions, genre il n'y a pas un moment, il n'y a pas un psychiatre qui apparaît qui dit en fait elle a deux personnalités, c'est pas possible, ça marche pas, ou alors les deux jumelles qui apparaissent en même temps sur l'écran genre coucou et oui on vous a bien vu, tu vois, donc il n'y a pas ça, il n'y a pas cette réponse,
il n'y a pas le moment Scooby-Doo, on appelle ça,
et c'est vraiment la fin, elle arrive en fait quand on est satisfait, tout simplement, quand on considère avoir nous-mêmes recollé l'histoire ensemble, mais il n'y a pas cette confirmation vraiment finale, même si on en reviendra un petit peu plus en détail quand on trouve. Alors j'ai juste testé hier, moi c'est au bout de 109 clips, il y a un petit message de SB, donc Sam Barlow, wink wink, qui nous dit c'est bon, t'as compris l'histoire, et tu peux dire oui ou non, si tu dis non tu y retournes, et sinon tu peux lui reparler, tu dis oui j'ai compris l'histoire, et là il te lâche un autre petit os et il te dit ah t'as compris pourquoi ta mère a fait ça, et que tu dises oui ou non, il lâche le nom Sarah, au cas où, voilà, t'as peut-être pas, mais t'as pas forcément toutes ces histoires de jumelles et tout, en fait c'est vraiment Samao qui te fait confiance pour recoller les morceaux ou pas, puisque que ce soit la théorie des jumelles ou celle du dédoublement de personnalité, on peut imaginer qu'une personne n'a compris ni l'un ni l'autre et vraiment à côté de la plaque, ou pour le coup là objectivement ce serait faux, tu vois, où il se dirait en fait Simon il est encore en vie et c'est Sarah qui l'a tué, tu vois, le truc qui n'a aucun sens, et
c'est des androïdes.
Et cette personne pourrait...
c'est même pas moi qui ai commencé à en parler. J'y crois pas. Attendez, parce que là, c'est important. Hein. Petite remise en contexte de fin du game. Moi, ça fait deux jours qu'il me regarde avec des gros yeux à base de « Tu ne parles pas de Détroit pendant cet épisode. » Et là, Hugo, il lâche un gros truc sur les androïdes.
C'est pour te bait.
J'y crois pas. Eh ben non, monsieur. J'attendrai encore un peu pour en parler.
Et donc, en théorie, une personne qui n'a rien compris pourrait en fait considérer avoir terminé Her Story, puisque le jeu ne nous dit pas.
Oui, tu peux passer complètement à côté, effectivement.
Mais il n'y a pas, justement, en fait, tu peux pas te dire, il n'y a pas cette satisfaction de se dire the end, crédit, et c'est bon, c'est je peux passer à autre chose. Parce que quoi qu'il arrive, c'est toi qui choisis de quitter l'ordinateur, et tu ne fais que quitter l'ordinateur, et le but du jeu, c'est de laisser ton imaginaire tout le temps gamberger en te disant mais tel détail qu'elle a dit dans telle vidéo, je me souviens, est-ce que ça va pas m'indiquer que ceci ou cela, et c'est toute la force du jeu, c'est de réussir à t'évoquer en permanence ce doute sur est-ce qu'elle est toute seule, est-ce qu'elles sont deux, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, parce que c'est pareil, on le sait pas,
tu vois, genre si elle s'est arrêtée,
Sarah, elle existe et elle est née, donc est-ce qu'elle a grandi dans un orphelinat, est-ce qu'elle a grandi avec sa mère, est-ce qu'elle l'a déjà vue, est-ce qu'elle est dans un hôpital psychiatrique, est-ce qu'elle a été condamnée à mort, enfin tu vois, parce que bon tu vois, il pourrait y avoir des tonnes et des tonnes d'explications, et justement le fait qu'on ne sache jamais et qu'on n'ait pas ce moment de closure, comme ils disent les Anglais, où vraiment on, ça y est c'est terminé, on te donne le fin mot de l'histoire, et ben le jeu reste tout le temps un petit peu en arrière-plan, et je pense que c'est ça qui a fait son succès, parce que bah, d'un point de vue critique, le jeu il a été vraiment encensé, quoi, vraiment ça a cartonné, alors que finalement c'est un simple dispositif qui est certes très bien réalisé et des vidéos, quoi, tu vois, c'est un moteur de recherche avec des vidéos, donc d'un point de vue dispositif jeu vidéo, on est quand même sur le très limite, tu vois, c'est vraiment le strict minimum de ce que t'as besoin comme interaction.
Ouais. Et bah d'ailleurs, on peut commencer un petit peu à parler comment finalement, parce que cette histoire, donc on l'a vu, elle est pas si compliquée que ça, mais la méthode de narration très morcelaire, mine de Sam Barlow, il a dû faire quand même un certain nombre de choix pour que ça fonctionne en fait, tout simplement, parce que lui, il le disait, c'est quand même un jeu qui était, pour lui, c'était un peu de l'expérimentation. Il est vraiment parti en Indé en se disant, bah voilà, j'ai toute cette expérience, j'ai ce truc-là qui me trotte dans la tête, je vais essayer de le faire. Et lui, il s'attendait pas du tout à ce que ça fonctionne et qu'il y ait déjà que ça fonctionne commercialement et qu'il y ait de bons retours, parce que pour lui, c'était vraiment quelque chose d'assez expérimental. Mais mine de, et je pense que c'est là qu'on voit quand même que c'est le jeu de quelqu'un qui a une carrière de game designer qui est assez mature, c'est qu'il a quand même bien cadré les choses et il a bien construit son histoire et son dispositif pour cadrer, en fait, et pour nous cadrer. En tant que dans le jeu, quoi. Le premier cadre qu'on a noté, c'est un petit peu déjà ce dont on parlait, c'est cette limite des cinq vidéos, en fait, puisque chaque mot-clé ne nous mène pas à l'ensemble des vidéos dans lesquelles il y aurait le mot-clé. C'est-à-dire qu'il a vraiment limité à 5 pour que son jeu fonctionne, en fait. Parce que si on tapait, je sais pas, Simon, et qu'on trouverait toutes les vidéos d'un coup avec lesquelles il y a Simon qui est mentionné dedans, en fait, l'histoire, on la découvrirait beaucoup plus vite et ça marcherait beaucoup moins bien.
Ouais, ce serait beaucoup plus scolaire, en fait. Pour le coup, ce serait plus, je pense, le entre guillemets, le vrai métier d'enquêteur, où là, t'aurais l'interview, plus ou moins dans l'ordre, avec, je me tape une heure et demie de vidéo, et c'est moi qui vais tout faire. Mais, on le rappelle, hein, on est dans un jeu, et c'est vrai que ce moteur de recherche, c'est pas un outil de police, c'est un outil de jeu, en fait, vraiment ludique, et dès le début, on comprend pourquoi. On tape murder, on voit 4 clips, et on se dit, je veux en savoir plus, tu vois, et je vais aller chercher les mots-clés, et le jeu il naît vraiment tout seul, en fait.
Ouais, c'est-à-dire que l'incohérence dont on parlait tout à l'heure, en fait, on l'accepte vraiment pour que le système de jeu fonctionne. Moi, ça m'a fait un peu penser à Obradine, alors c'est peut-être un jeu dont on parlera un petit peu plus tard dans fin du game, mais dans Obradine, Lucas Pope a fait exactement aussi un choix dans l'enquête qui peut sembler un petit peu incohérent, c'est-à-dire qu'en fait, il valide tous les trois bons sorts qu'on trouve des morts, il les valide tous les trois trucs, et ça n'a pas vraiment de sens dans la digeste du jeu, quoi. Ça a pas, y a rien qui rend ça cohérent. Mais en fait, tu te dis, s'il n'avait pas fait ce choix-là, le jeu ne marcherait pas, il serait beaucoup trop dur.
Ouais, on a besoin, en fait, de sentiment de progression. C'est pour ça que là, Sam Barlow, il a mis, en fait, un des programmes qu'il y a sur le bureau, c'est le DB Checker. Ouais, en fait, ça sert à rien, c'est pas un truc qui existe, mais ça t'indique juste, tu vois, il y a des petits carrés rouges, ça fait penser à la vieille interface de, tu sais, quand tu défragmentais ton disque dur, et t'as des petits carrés rouges qui t'indiquent que c'est des vidéos que t'as pas vues, et quand ça devient vert, c'est des petites vidéos que t'as vues. Et du coup, en gros, j'imagine que ça te permet, toi, en tant que joueur, de te dire, j'ai vu tant de vidéos, j'en ai vu la moitié, tu vas voir une ligne de verte et au milieu un petit truc de rouge, tu dis putain, il y a une vidéo dans cet interrogatoire là que je n'ai pas vu, qu'est-ce qui se passe, etc. Et du coup, forcément, il va te donner envie de continuer en mettant ces petits outils qui sont purement des outils ludiques, comme tu l'as dit, et qui sont pas du tout liés à la diégèse du jeu, c'est-à-dire que c'est pas des trucs qu'on pourrait trouver dans un poste de police, mais ça sert son propos malgré tout.
Oui, à chaque fois que tu trouves un nouveau clip, t'as une petite icône d'œil en fait qui t'indique que c'est un nouveau clip que tu n'as jamais vu, et ça, c'est un petit sentiment de satisfaction aussi. Un peu, tu vois, dans Bradin, quand t'as trouvé une série de 3, t'as vraiment le petit ah yes, cool, c'est validé. Et là, pareil, quand t'as un œil, tu fais allez, c'est le bon mot, tu vois, j'ai tapé le bon mot-clé qui m'apporte les bons nouveaux clips.
Et c'est marrant parce que tu vois, tu le disais tout à l'heure, c'est à la limite minimum en termes de dispositif vidéoludique, mais finalement, il y a quand même des codes, la récompense, des choses assez explicites pour motiver la progression.
Ah ben ça, par contre, moi j'invite tous les gens qui nous écoutent à justement étudier la façon dont ça fonctionne, parce que quand tu veux commencer à faire du game design et à t'intéresser à la narration interactive, c'est, tu vois, les éléments minimum de ce que tu as besoin de faire là-dedans, Her Story, c'est vraiment un très très bon exemple à suivre. Et le fait que justement on parle d'expérimentation, l'expérimentation en art, c'est un truc qui est très codifié, c'est quand on joue avec les limites de cet art-là, de sa forme, de sa structure ou de son langage. Et le jeu vidéo, ben, du coup, comme c'est un objet qu'on n'arrive pas encore trop à définir, là, Her Story, lui, il s'intéresse à tout ce qui va être la notion de narration et d'investissement de l'imaginaire du joueur dans une histoire qui est donnée de manière complètement fragmentée. Ce qui ne serait pas possible, en fait, avec un autre type de média. Et c'est ça, en fait, qui a intéressé Sam Barlow quand il a fait Her Story.
Ouais, on disait que le scénario était plutôt convenu, en tout cas pas si surprenant si on compare aux milliers d'épisodes de Détective qu'on a pu voir. Mais parce que ça aussi, en fait, c'est un outil, le fait déjà d'avoir aussi morceler l'histoire. En fait, il y a plusieurs twists, donc le fait que Sarah soit la fille d'Eve, le fait que ce soit des jumelles, le fait qu'il y ait une partie où il y en a une qui vit toute seule, puis ensuite elles sont deux, puis il y a avant Simon, après Simon, et en fait tout ça, c'est vraiment, l'histoire elle est découpée en morceaux clés. Et justement, comme on est dans un jeu où il faut recoller les morceaux, on est perdu tant qu'on n'a pas trouvé certains éléments clés. Tu vois, le fait que que les jumelles se soient rejoints à un moment, bah, tant que tu l'as pas trouvé, t'as du mal à recouper deux éléments de l'histoire ensemble. Donc l'histoire a vraiment été pensée pour être découpée, recollée et pas forcément comprise, même si c'est une bonne partie.
D'ailleurs, ça a dû, enfin, pour lui, ça a vraiment été un challenge en termes d'écriture. Et en fait, l'outil, c'est un jeu où on joue avec les mots, c'est vraiment de l'aventure textuelle. Et du coup, en fait, il a beaucoup limité le champ lexical qu'il utilise. Il a vraiment limité l'utilisation du vocabulaire pour que ce soit, encore une fois, pas trop, qu'on soit pas submergé par les possibilités et que notre imagination, elle reste assez cadrée. Et il le disait, en fait, pour écrire le truc, il s'est vraiment servi de ce bon vieux Excel, et en fait il testait lui-même les recherches de mots, et quand il y avait trop de synonymes, il remettait le même mot pour justement que ça se recoupe mieux, et que nous, dans le jeu, on ait plus de facilité finalement à tirer sur toutes les petites ficelles qu'il va nous tendre, et sur certains mots assez importants. Donc il y a les prénoms évidemment qui sont importants, mais t'as aussi, moi je me suis amusé sur ma deuxième partie, j'ai tapé le mot glace, donc le verre, et là j'ai trouvé très très vite l'histoire, genre avec Simon qui est fabricant, machin, le miroir et tout. Donc tu peux aller très très vite dans certains sens, en fait, quand tu sais les bonnes ficelles, les bons mots à utiliser, quoi.
Oui, c'est pas un truc que tu vas pouvoir refaire de toute façon. Hein. Her Story, c'est pas un jeu qui a une grosse rejouabilité, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, ce qui compte, c'est l'expérience que t'en as la première fois. Mais lui, du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'évidemment, heureusement qu'il a limité, parce que si t'imagines, tu pouvais mettre n'importe quelle interjection, le mot et, le mot end, le mot i, she, etc. On n'y arriverait pas, quoi.
Bah, c'est vrai qu'en plus, ça limite ça, même, parce que quand tu dis, en plus, she se limite à 5, tu peux pas jouer avec ça, tu peux pas dire je mets le mot je et terminé, c'est parti,
ça y est, c'est fini, ouais. Genre, solution. J'ai réussi à tromper le jeu. Tu t'imagines trop fort chez toi. Non, évidemment, lui aussi, il y a pensé. Et tout son travail a été de créer ce puzzle, puisque c'est un puzzle, en fait, d'une histoire. Il y a 100... Combien on avait dit ? Il y a 1h30 de vidéo, ça fait 140 ou 150 vidéos.
271.
271 petits morceaux de vidéo, tu vois, c'est quand même... incroyable. Non, mais j'étais juste en train de réfléchir au fait que Max, hier, tu vois, genre pendant son marathon d'Apex, il a quand même pris le temps de refaire Her Story juste pour noter combien de fois, au bout de combien de vidéos, le truc apparaît.
En fait, je l'avais déjà refait, tu vois, un petit peu, et là c'était juste trouver des clips. Donc là tu notes et tu peux aller très vite avec les APM d'Apex en 5 minutes. T'as vu tous les clips.
Ça commence à brag.
Il a masterisé Her Story.
Non, mais par contre, ce que vous voyez pas, c'est que Max, juste devant lui, il a un petit cahier où, en fait, il s'est amusé à mettre des petites boîtes avec des mots et de voir, en fait, comment les chaînes de mots fonctionnent pour nous emmener sur certaines pistes.
Bah, t'as certains mots qui sont donnés avec une certaine intonation, ça aussi, c'est intéressant. Il y a un moment, vraiment, elle dit... Enfin, vraiment, la phrase, ça fait nanani nanana. Dans ta phrase, tu la filtres parce que c'est pas intéressant. Enfin, dans ta tête, tu filtres la phrase. Ensuite, elle dit genre, have you talked to Diane? Et là, tu fais, ok, bon, j'écris Diane, tu vois, en grand. Et par exemple, le mot Diane, il te donne une série de clips qui peut te faire penser aux mots wedding, Glasgow ou guitare. Et du coup, ces trois mots vont chacun individuellement te donner une série de clips qui peuvent te donner parents, baby, Brighton, pregnant, taxi, etc., etc. Et en fait, tu te retrouves avec une cascade de mots, parce que chaque mot va te donner une série de clips qui vont te donner des mots, et j'ai entouré certains mots qui se répètent vraiment littéralement, et t'as les mots Rapunzel, donc c'est un conte dont elle parle plusieurs fois, qui est réponse en français. T'as Eve, évidemment, t'as Kill, t'as Attic, qui est le grenier.
Ouais, dans lequel elles vivaient toutes les deux.
C'est ça, t'as Baby, même 17, tu vois, qui est un âge, et vraiment, oui, t'as des répétitions de mots que tu trouves dans différents clips, mais qui n'ont pas la même source, en fait. Vraiment, si t'as exploré une voix ou l'autre, parfois tu vas retrouver le même mot, et au final, la cascade de mots, elle va finir par se recouper, en fait, elle va boucler.
Exactement, et tu vas pouvoir explorer comme ça un petit peu le truc, et en fait, démêler les gros nœuds de l'histoire grâce à ces différents mots.
C'est ça, la très grande force de son histoire, c'est qu'elle est certes très simple, mais elle fait appel à des thématiques qui sont assez fortes, la thématique des miroirs, la thématique de réponse, donc réponse, pour rappel, c'est la princesse qui est enfermée dans sa tour, elle ne peut pas en sortir, la seule solution qu'elle a trouvée, c'est de faire pousser sa chevelure pour que le prince puisse monter le long de la chevelure et la sauver, et évidemment, en fait, ça fait écho à tout ce qu'elle a vécu, elle, quand elle était petite, puisque la gamine, moi je considère qu'elle est toute seule et qu'elle n'a pas de sœur, elle était toute seule dans son grenier, elle avait cette maison de poupée, elle en parle régulièrement de cette maison de poupée, c'est un truc très fort dans son histoire, où elle va justement s'inventer des histoires. Il y avait sûrement un miroir à l'intérieur, et on peut imaginer, enfin en tout cas moi ce que j'imagine, c'est que comme elle était toute seule et qu'a priori ses parents s'occupaient pas d'elle, parce que je sais pas ce qu'elle foutait toute la journée dans le grenier cette gamine, mais bon, en tout cas personne s'occupait d'elle, elle a fini par s'imaginer être la fille dans le miroir et commencer à partir dans ce délire, et c'est parti beaucoup trop loin, puisque du coup ça l'a poursuivi toute sa vie, d'où sa phobie des miroirs, d'où sa fascination aussi pour le mythe de réponse, puisqu'elle était enfermée en fait dans son grenier, etc., etc. Enfin, pour moi, c'est pour ça. Je trouve que c'est un peu plus sexy l'histoire des jumelles. Ce que je voulais dire juste sur les histoires des mots et des thèmes, c'est que ce fait là que toi tu aies écrit des trucs, je l'ai fait aussi. Ouais, et je pense aussi, que tout le monde qui a joué au jeu et qui s'est un peu pris au truc s'est mis à noter des choses. Genre, ah oui, faut pas que j'oublie de mentionner tel nom, tel mot, qu'est-ce qui s'est passé, noter les dates, noter les trucs, comme si nous-mêmes on était des enquêteurs. Et ça, c'est la très grande force du jeu, de se dire, ben voilà, je vous donne des petites infos et après c'est vous qui faites tout le reste, et en fait finalement c'est nous qui apportons le plus gros, tu vois, de ce qu'on a besoin pour que le jeu il fonctionne. Lui il nous donne le minimum et nous on fournit tout le reste.
Moi la première fois j'avais pas pris de notes, mais je me rends compte que c'était bête, tu vois, c'est clairement ce qu'il y a de plus simple à faire, de noter. Moi j'avais un peu exploité le système de tag, où en fait quand tu trouves un clip, tu peux toi-même annoter en fait un tag, ton mot-clé, pour le retrouver ensuite quand tu retapes dans la barre de recherche. Et tu peux faire une sélection aussi de vidéos, tu peux les enregistrer. Et en fait, comme on l'avait dit, il y a 7 interviews différentes. Et moi, ce que j'avais fait, en fait, quand je reconnaissais que c'est parce qu'elle a des vêtements différents, c'est vraiment identifiable, t'as la date aussi et l'heure qui est notée. Donc tu peux les ranger chronologiquement. Et ce que j'avais fait, en fait, c'est l'interview, je les ai appelés A, B, C, D, E, F. Et en fait, A1, c'est l'interview, la première interview de la première interview, et ainsi de suite. Donc t'avais B1, B2, B3, etc. Et du coup, en fait, je pouvais tout remater en tapant A1, A2. C'était un peu plus fastidieux que juste noter les mots-clés. Quand même.
Moi, à la fin, j'ai triché, je suis allé dans les dossiers, j'ai recherché dans les dossiers d'installation où étaient les vidéos, parce que forcément, il y avait des fichiers vidéo, et je les ai mis dans une playlist, et j'ai tout re-regardé dans le sens pour voir. Et je trouve, et en refaisant ça, ça m'a juste, tu vois, renforcé dans l'idée qu'en fait c'était un délire de dédoublement de personnalité.
Moi, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est la performance de l'actrice de Viva. Elle a eu un BAFTA, je crois, ou un Grammy Award. Non, pas un Grammy, mais
elle a eu un BAFTA, un prix pour sa performance au Game Awards, qui avait d'ailleurs été attribué, juste pour l'anecdote. Elle était nommée en disant le prix est attribué à Viva Cypher de The Witcher 3. Et en fait, elle était assise juste devant Marcin Iwinski, qui est le cofondateur de CD Projekt, et qui lui était là, genre, what, qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre, c'est pas du tout ça, tu vois.
Et ce qui est intéressant dans sa performance, c'est que justement, tu vois, tu le disais sur les intonations et tout, sa manière d'appuyer sur certains mots. En fait, moi, ça m'a fait un peu penser, vous savez, pourquoi les combats dans les Souls contre les boss, pourquoi ça marche.
Oula, attention, le parallèle. Attention,
c'est incroyable, il essaye de me bait depuis tout à l'heure. Il parle de Détroit, il parle de Dark Souls.
Non, mais pourquoi ça marche, en fait, c'est parce que, en fait, il y a un travail, toute la technicité des animateurs, en fait, de chez From Software. Pourquoi les combats contre les boss, ils sont si passionnants? Parce qu'il y a tout ce travail, tout ce soin sur l'animation qui permet que les attaques, elles sont téléphonées, leur façon qu'ils ont, les monstres, de se mouvoir, en fait, il y a une subtilité dans les mouvements qui fait que le jeu, il est intéressant parce que t'as envie de lire les patterns et de voir un petit peu à travers, finalement. Au début, t'es complètement impressionné, tu dis « je vais jamais y arriver », et au final, au fur et à mesure que tu les vois, t'arrives un petit peu à déceler les subtilités des patterns. Et en fait, la technicité de sa performance d'actrice à Viva, en fait, elle est exactement pareille. C'est-à-dire qu'au début, tu vois pas toutes ces petites intonations, tu vois pas ses silences, tu vois pas sa manière d'appuyer sur les mots, et puis au fur et à mesure que tu vas t'approprier un petit peu son jeu, tu vas comprendre là où il y a des vraies petites nuances et là où tu vas pouvoir chercher un petit peu du sous-texte. Et pour moi, c'est pour ça que je trouve que sa performance est hyper intéressante, parce qu'elle sert pas seulement le personnage ni l'œuvre, mais elle sert aussi le gameplay. C'est-à-dire que toi, tu vas pouvoir vraiment déceler, tu vas pouvoir faire ce jeu d'enquête en fait grâce à sa performance d'actrice, quoi.
Et ce qui était très compliqué dans la direction d'acteur, et qu'on ne se rend pas forcément compte si on n'a pas, si on s'intéresse pas nécessairement au cinéma ou quoi que ce soit, c'est qu'elle joue pas forcément très bien. Attention, hein, je vais mettre des grosses guillemets. Elle est pas dans un jeu vraiment, tu vois, vraiment parfait, où on va la croire en permanence. Elle joue volontairement la personne qui va insister, etc. Et ça, c'est très difficile, encore une fois, à trouver ce point d'équilibre, puisqu'elle force volontairement le trait. Et ça, de surjouer comme ça, c'est très complexe. Ça demande d'avoir une très bonne écriture en amont, ça demande d'avoir une très bonne actrice, un très bon directeur d'acteur. Et ça, justement, c'est ça qui est très très fort, c'est que ce fait que tu t'en rendes compte petit à petit qu'elle surjoue, ça va te encore plus t'inviter à revenir en arrière, de re-regarder tout et te ressasser le truc jusqu'à ce que tu commences à te créer cette espèce de masse d'imaginaire qui va entourer le jeu, qui n'est absolument pas justifié, qui est vraiment juste notre cerveau en fait, qui va se mettre à imaginer des trucs, à créer des trucs, à remplir les blancs, hein. Tu parlais de Dark Souls, moi j'aurais plus cité le fait qu'il aime bien faire de l'histoire en faisant volontairement des trous que les joueurs vont combler eux-mêmes. Et en fait, Herstory ne fonctionne que comme ça. L'histoire, elle est justement fragmentée, et c'est à toi de le reconstituer, et ton cerveau est même attiré naturellement. Et ça, il l'explique lui-même dans cette conférence de la GDC, où il dit que c'est ça qui le fascine finalement dans le fait de raconter des histoires, c'est qu'on a cette capacité instantanément, peu importe les règles, peu importe que ça soit un écran, un livre, une pièce de théâtre, à se projeter et à s'investir en tant que spectateur ou acteur, enfin joueur du coup, dans ce qu'on nous raconte. Ça, c'était voilà. Enfin bon, moi, ça fait partie des trucs qui m'ont fasciné dans sa prestation à Viva Seyfert.
Et puis même moi, En refaisant le jeu, j'arrivais vraiment à voir quand elle était, donc je sais pas si c'est deux personnalités ou si c'est jumelles, mais en tout cas quand il y avait Anna et quand il y avait
elle. C'est deux personnalités, je vous dis, moi, c'est deux personnalités.
Parce que Anna, en fait, quand elle joue Anna, elle est très recroquevillée sur elle-même, elle est beaucoup plus crispée, beaucoup plus nerveuse, alors que Eve, elle est beaucoup plus dans l'assurance, elle est même limite un peu séductrice, elle va sortir sa guitare à un moment, elle chante, il y a quand elle, je sais pas si elle, je
crois. Oui, parce qu'elle a une guitare évidemment pendant l'interrogatoire.
Oui, tout va bien dans les salles d'interrogatoire. Je sais pas, mais il y en a toujours. Et en fait, on voit vraiment la différence. Là, quand j'ai relancé le jeu, je me disais, ah ouais, là c'est elle, et là c'est elle. Et ça ressort vraiment. Mais par contre, en fait, la première fois que tu le fais, tu ne le vois pas du tout, parce qu'en fait, t'es complètement submergé par toutes les informations, par les mots, par la performance de l'actrice. Tu vois pas tout ça. Et c'est qu'au fur et à mesure que tu vas pouvoir arriver à démêler les trucs. Et c'est ce qu'il disait finalement, c'est que lui, il voulait faire un jeu un petit peu par rapport à l'idée du sous-texte. Et c'est vraiment ça, le sous-texte, c'est une fois que tu as certaines clés thématiques, hop, tu peux mieux comprendre le texte, ce que tu lisais au premier degré et que tu ne percevais pas au début. Bah ensuite, si tu as les petites subtilités, hop, tu comprends ce qu'il y a derrière le texte.
Oui, tu as plusieurs éléments auxquels te raccrocher. Là, c'est plus ou moins subtil, mais ouais, tu parlais de réponses. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit, où ce qu'elle chante avec la guitare aussi, ça fait un petit peu écho à ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc il y a tous ces petits éléments.
Et puis t'as le fait qu'elle s'appelle Eve, l'autre elle s'appelle Anna, c'est des palindromes, donc forcément c'est des noms qui se lisent à l'endroit comme à l'envers. Donc en fait, il y a toute cette thématique là qui sont des éléments qui sont à la fois trop gros pour qu'on y croit vraiment, mais qui sont suffisamment, j'ai envie de dire, sexy pour ton imaginaire, pour que tu t'accroches à ça et que tu te dises. Mais j'ai trouvé, tu vois, c'est vraiment une espèce de cluedo où tu te dis, son nom, il se lit à l'envers, tu vois, quand tu découvres ça, tu te dis, il y a un miroir, ouais, c'est ça, il y a un côté conte de fées.
Un peu fantasque, tu vois, toute l'histoire du miroir, c'est un truc que tu retrouves tout le long, quoi. Il y a elle se voit, elle a l'impression que c'est un miroir. Ensuite, quand elles vont se rencontrer, c'est le miroir qui se répond. Ensuite, elles vont rencontrer un mec qui fabrique des miroirs. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est quoi le comble pour un fabricant de miroirs? C'est de tomber amoureux de jumelles, tu vois, c'est quand même ça. Et puis, il y a même le dernier, le black mirror, un petit peu, l'écran de l'ordinateur qui reflète encore un truc. Donc, tu vois, l'histoire, elle est vraiment écrite dans cette idée-là, de faire vraiment sur quelques thématiques très fortes. Et ouais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est vraiment ça, c'est sexy, c'est pas vraisemblable, mais c'est sexy, et en fait, ça rend l'histoire très digeste, et tu peux vraiment bien te l'approprier, en fait.
Oui, moi j'ai vraiment... en fait, je me suis pris au jeu, quoi. Tu vois, c'est un jeu d'enquêteur, finalement, où l'enquête, elle est pas fascinante en soi, mais la façon dont elle t'est présentée, où c'est toi qui interviens, et t'as ce petit plaisir, comme tu disais, à chaque fois que tu découvres un nouveau truc, que tu réussis à affiner, tu vois, c'est toujours l'image de l'entonnoir où tu vas affiner petit à petit ta recherche, et ben, t'as ce plaisir de dire « j'ai trouvé un truc », et à la fin, plutôt que de te dire « bravo, tu as gagné, voici un pins », il te dit « salut, ciao, à bientôt, tu vois, il te donne pas cette espèce de satisfaction, mais c'est pas gênant. Tu vois, moi, je me suis pas senti frustré parce que justement, il a mis en place tout ce délire autour de l'imaginaire et du sous-texte. Et en fait, même quand tu t'arrêtes le jeu, bah, tu continues de gamberger en te disant, mais il s'est passé ci, il s'est passé mi, etc. Et en fait, t'es pas frustré de pas savoir le fin mot de l'histoire. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas gêné parce que j'ai vraiment passé un bon moment.
Non, tout ça fait partie du truc, et c'est vrai que sous couvert, tu vois, d'enquête, c'est un jeu qui met vraiment le doigt entre la différence entre scénario et narration, puisque c'est vraiment la narration qui fait le succès
oui, du vraiment,
jeu. Ouais. C'est le jeu, tu vois, c'est un jeu qui est pas détachable de sa narration, en fait. On a tendance parfois à opposer, parfois à juste titre, hein, gameplay et narration, histoire, et là, en fait, c'est pas vraiment possible, puisque le jeu, c'est l'histoire, c'est de recoller l'histoire avec elle, quoi.
Oui, puis c'est ce qu'on fait depuis le début dans les épisodes de fin du game. On explique justement comment les deux en fait peuvent interagir, peuvent s'aider et se soutenir l'un l'autre pour justement donner l'expérience de jeu. Et l'un ne s'oppose pas toujours à l'autre. Et là, très clairement dans la story, bon, bah, vu qu'on est dans de l'expérimentation, il nous montre très clairement que la narration peut être uniquement le jeu et qu'il peut y avoir rien d'autre. Parce qu'après, tout le reste, comme c'est ces histoires de sous-texte, en fait, c'est nous qui... Enfin, tu vois, cette idée de l'iceberg, tu sais, il en parle aussi dans la conférence, je sais pas si tu te souviens. En gros, il démarre sa conférence en citant Hemingway, en disant qu'Hemingway, lui, quand il écrivait une histoire, il s'imaginait que ce qu'il donnait au lecteur, c'était la partie émergée de l'iceberg, et qu'en réalité, tout le reste, c'était ce que lui, il savait, et que quand il jouait avec ça, ils allaient justement jouer avec les lecteurs, et du coup, eux, ils allaient devoir chercher, plonger sous l'eau et essayer de comprendre ce qu'il en est et s'imaginer des trucs. Et lui, justement, Sam Barlow, il a joué uniquement sur ça et il a fait tout son jeu juste avec cette simple idée. Donc, pour vous montrer que le game design n'est pas forcément une idée de je vais sauter ou je vais tirer sur des monstres, ça peut être je vais réfléchir à ce que veut dire le sous-texte.
Ouais, dans son processus de développement, il a dit qu'une des premières étapes, c'est vraiment rédiger la biographie des personnages. Tu vois, c'est un des premiers trucs qu'il a fait pour comprendre leur point de vue, comprendre comment ils allaient s'exprimer et comment ils allaient dire les choses. Bon, mais si en l'occurrence, il n'y en a qu'une ou deux, si on considère Yves et, Yves et Anna, mais c'est vraiment tout ce travail en amont qui sert, en fait, ce que l'audience va voir. C'est aussi une démarche que tu peux retrouver. Alors, c'est dans le fond, mais Tolkien, c'est aussi quelqu'un qui faisait ça, qui allait écrire un monde pour ensuite raconter l'histoire de personnages qui vivent dans ce monde,
tout à fait.
Oui, de toute façon, en plus, cette histoire de cosmogonie, de créer comme ça tout un univers, l'origine du monde, d'où il vient, la culture, etc., c'est ce qui donne la richesse à un univers dans le cas de fantasy ou même de fiction, et c'est ce qui permet de rendre les personnages crédibles, parce que du coup, on en parlait les dernières fois, et ça y est, c'est le moment où je vais parler de Détroit, c'est quand tu commences à écrire des personnages et qu'ils ont vraiment un contexte, une vie avant le moment que tu choisis de délimiter dans le jeu, et ben leurs actions, en fait, elles coulent de source. Parce que du coup, tu sais, toi, en tant qu'auteur, ce que vont faire ces personnages-là. Tu sais ce qu'ils ont envie, tu sais quels sont leurs motifs. Et là, ben, en fait, lui, il nous montre une heure et demie, mais il a passé 6 mois à écrire, à rechercher, à faire des trucs pour que justement, en fait, nous, on soit captés uniquement par cette petite instant.
Ouais, d'ailleurs, au début, on disait que c'était un jeu assez expérimental. Et c'est vrai que moi, pour ma part, je trouve qu'on a dépassé le jeu expérimental. Il y a quelque chose de très abouti, en fait, parce que finalement, comme il a décidé de faire une histoire qui est assez simple, de bien cadrer son champ lexical, de bien maîtriser ce jeu d'acteur, de rester aussi dans des moyens qui sont assez restreints, je veux dire, en termes de prod, c'est pas un jeu qui a coûté extrêmement cher à faire, il a eu bien conscience, en fait, de son truc, et finalement, c'est un projet qui est assez abouti. Moi, je trouve que Her Story, c'est un jeu qui est complètement unique, et je trouve qu'il est vraiment réussi dans le fond comme dans la forme, même si il peut avoir des petites faiblesses. Finalement, c'est quand même très abouti. Il est vraiment allé au bout de son truc et surtout, c'est maîtrisé. Et pour moi, c'est ça qui témoigne un peu de la maturité du game designer, c'est qu'il a bien pensé son truc, quoi.
C'est ça, ça nous rappelle en fait qu'un jeu, c'est très souvent de l'illusion, de la manipulation, puisque dans Her Story, on est sous l'illusion d'être un enquêteur ou une enquêtrice, alors que comme on le disait, enfin même l'outil de base n'existerait pas dans un monde où il y aurait des vraies enquêtes policières. On disait l'outil, il serait créé par quelqu'un qui veut pas que l'enquête soit résolue, tu vois. En soi, c'est un bâton dans la roue, quoi, dans les roues. Et donc, comme tu disais, même l'histoire en elle-même est un outil, en fait, pour servir cette émotion, ce sentiment d'être un enquêteur, ce moment eureka, ce moment recoller les morceaux ensemble, comprendre plus ou moins l'histoire. C'est ça, le game design, c'est en partie ça, quoi.
Ouais. Et du coup, ça va être intéressant de savoir comment il va pouvoir un petit peu transformer l'essai avec... il a déjà transformé l'essai, mais la suite, puisque on le sait, Sam Barlow, alors il a travaillé sur un petit truc qui s'appelait Wargames, hein, je crois, mais qui supervisait, c'était pas vraiment son gros bébé.
Ouais, et puis on était encore dans un truc assez expérimental, qui s'est assez gaufré, hein, c'est un petit truc, ça doit coûter 2€ sur Steam si vous voulez l'essayer. On est toujours sur l'utilisation de FMV, mais ça va pas très très loin, quoi. C'est pas son vrai nouveau projet.
Ouais. Et là, donc le nouveau projet qui est passé chez Annapurna Interactive... Ouais. et donc qui est un éditeur de jeux indépendants, et donc il a mis de l'argent dedans, mais en plus, bon, Sam Barlow, il a dû gagner un petit peu, donc il a les moyens pour sa suite, donc il va pas forcément avoir les mêmes limitations techniques que pour le premier, et en plus, bah, de ce qu'on peut savoir sur le projet, ça va être quand même déjà plus ambitieux, il y aura plus d'acteurs, mais moi, ce que je me demande, c'est, je me dis, voilà, est-ce que ça va pouvoir remarcher une seconde fois, est-ce que ce sera la même surprise? Probablement pas, mais voilà, est-ce que vous attendez la suite ou pas?
Bah,
c'est
oui.
Une suite spirituelle, hein, c'est
oui,
pas
oui,
Story 2,
ouais,
hein,
c'est ça, c'est voilà. Pas, ce sera pas la suite, c'est quoi, c'est Telling Lies?
C'est ça, voilà.
Mais il a déjà expliqué que par contre, le format serait très similaire, donc on peut s'imaginer qu'il y aura un dispositif avec un système de recherche de mots-clés, et on aura encore du FMV à manipuler. Mais effectivement, comme il a plus de moyens, bah, qu'est-ce qui pourrait changer? Moi, je sais pas trop, parce que est-ce qu'il va retomber dans le... Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas des tonnes de codes et de genres qui sont aussi universels que le policier. Tu vois. Il n'y en a pas non plus des milliards. Donc c'est vrai que c'est facile de tomber, parce que la résolution du mystère, dans, tu vois, pour nous, on va dire, être humain, c'est quand même un truc plutôt cool. Tu vois, c'est un truc tout de suite sexy. Tu te dis, ah bah oui, je vais trouver, je vais comprendre, je vais utiliser mon cerveau, et boum, c'est moi qui vais trouver la réponse.
C'est pour ça que ça marche beaucoup, je pense, le genre policier.
Ah oui, bien sûr. Ouais,
c'est pour ça que ça
stimulation, il y a une stimulation particulière qui est vraiment appréciée de tout le monde. Quoi. On aime tous faire ça.
Oui, pourquoi Columbo, ça a aussi bien marché, alors que dès le début, on voit qui est le tueur. On sait toujours l'épisode de Columbo, ça se présente toujours par la fin. Et après, on voit comment l'inspecteur Columbo, lui, retrace les pas du meurtrier pour à la fin lui dire
voilà ma femme
ma femme mon chien et hop et il lui dit boum vous allez en prison quoi et ça c'est ça qui marche et qui a marché pendant des années et des séries policières il y en a toujours autant donc est-ce qu'il va rester là-dedans je sais pas malgré tout bah je serais curieux de voir où c'est qu'il va pouvoir aller à mon avis il va rester sur des... il va peut-être faire intervenir beaucoup d'autres thématiques moi en fait le j'en ai pas parlé mais ça m'a beaucoup fait penser à Twin Peaks en fait le jeu en lui-même j'ai retrouvé cette ambiance un peu, je sais pas pourquoi, parce que c'est finalement, il n'y a pas forcément de rapport direct avec Twin Peaks, ni même de mention de référence, il y a ce côté un peu fantastique, où il y a des moments où tu te dis la réalité elle est un peu chelou, comme on peut avoir dans les saisons 1 et 2 de Twin Peaks et puis bon, vu que c'est une œuvre voilà, un peu importante, enfin dire essentielle de tout ce qui est policier et à la télévision, je me dis, est-ce qu'il va pas partir un peu dans ce délire là, justement, de faire intervenir plein de personnages différents, qui auront tous comme ça des petits trucs de personnalité un peu
spéciaux,
des
mensonges ou des trucs comme ça, il va y avoir des jeux sur de pouvoir, sur ce sous-texte puisque bon voilà, si c'est Telling Lies, là on partira vraiment dans le délire, voilà, est-ce qu'il me dit la vérité, donc
il y a une chose en fait à éviter, parce que Her Story c'est un jeu assez court en fait, comme on disait, il y a que 7 interviews. On finit, il y a la base de données qui te montre le nombre de clips. On assez rapidement, on commence à déterminer un peu le périmètre, tu vois, de la place qu'on doit laisser dans notre cerveau. Et ça va, tu vois, il y a pas besoin de trop en retenir, de trop en faire. Il y a ce qu'il faut, je trouve.
Il y a une certaine justesse, ouais.
C'est ça. Et alors que dans Telling Lies, s'il commence à faire intervenir beaucoup de personnages, il y a ce risque-là. Après, comme on le disait, c'est aussi le job de designer de trouver des moyens intéressants, peut-être de compartimenter justement les différentes interviews. Tu pourras peut-être sauver plus de clips, faire différentes parties. On disait, bah voilà, là il y a la boîte telle personne, j'ai regroupé les clips. On ne sait pas en fait, on n'est pas encore conscient des challenges qu'il va rencontrer et des outils en fait qu'il va devoir élaborer pour répondre à cette challenge.
Oui, on imagine que de toute façon lui il a eu du feedback et il a dû, enfin en 2-3 ans après quand t'as sorti ton truc t'aurais dit bon bah j'aurais dû faire ça mieux machin. Donc
ouais, puis entre temps il y a O'Bradin qui est sorti qui est aussi un excellent jeu d'enquête et qu'on vous recommande et du coup je pense qu'il aura l'occasion d'y jouer tu vois, ça peut aussi influencer, lui, son process, ce qui serait, va être bien, en fait. Moi, ce que j'attends, c'est une fois que le jeu est sorti, qu'il nous en parle, tu vois, pour qu'il raconte, justement, les interviews et tout ça, parce que ça va être assez fascinant. Parce que moi, j'ai été vraiment bluffé de voir qu'il a réussi, en fait, à maîtriser comme ça le principe de la narration interactive en utilisant des codes qui sont plus liés au cinéma ou à la littérature et en utilisant, finalement, très peu d'éléments qui sont spécifiques aux jeux vidéo, parce que tu fais que cliquer et lire des trucs. Il n'y a pas besoin de boutons, il n'y a pas besoin de marteler des touches. Exactement comme voulait le faire un certain personnage créateur d'un studio français bien connu qui n'y est pas arrivé et justement moi j'ai trouvé ça du coup très bien et évidemment j'attends de voir ce que ça va donner
Ouais c'est une réussite parce que finalement ça fait vraiment partie de ces jeux pour moi qui viennent un petit peu mettre une nouvelle petite épingle dans les limites du spectre vidéoludique et qui pousse un petit peu quelque part et on dit ah bah ouais on peut aussi faire ça quoi et ça c'est toujours bon à prendre
un petit truc moi que j'aimerais bien voir c'est des sortes de suggestions de mots en fait mais juste par des indices visuels un truc tout bête dans Her Story qu'il y a une fois c'est quand je l'ai vu avec sa guitare j'ai tapé guitare tu vois et ça m'a donné un ou deux clips bon là en l'occurrence niveau subtilité c'est moyen mais c'est quand même cool, tu vois, d'y avoir pensé soi-même et de se dire, je vais le mettre ou une autre fois. Au moins, il y a un clip, ça commence.
Le tatouage, tu peux taper.
Oui,
tatou,
c'est ça, il y a le tatouage. Il y a une autre fois, à un moment, elle commence le clip, elle parle en fait à l'inspecteur, elle lui dit, ou aux inspecteurs, elle dit genre, non, votre collègue allait m'en chercher un, merci. Du coup, j'ai tapé café, tu vois, ouais. t'as des petites choses un petit peu suggérées comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très satisfaisant. On en parlait, tu vois, du cerveau, je pense, humain qui aime bien recoller lui-même les morceaux et trouver le petit indice et la réponse. Et c'est vrai que là, on est complètement dedans, ouais, et j'aimerais bien le retrouver.
Ouais. Ouais, c'est abouti parce que finalement, bah, ce jeu d'enquête, on se prend vraiment au jeu et y a rien de plus récompensant, quoi, d'arriver à faire ça parce que finalement, souvent, les jeux d'enquête, on est très très cadré et tu peux te sentir que t'es un petit peu trop aidé parfois par le jeu parce que finalement c'est très compliqué d'arriver à cadrer ce sentiment-là, cette enquête-là, en disant bah voilà, je vais faire assez confiance, mais il faut quand même assez aider. Et finalement, ouais, c'est ce que tu disais, c'est bah, il est arrivé à trouver ce petit équilibre-là qui fait que ça marche bien, quoi. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. On vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur Discord, donc le club de lecture de fin du game, pour savoir les deux jeux dont on va parler prochainement.
Ça nous amène en mars, tout ça, ou pas encore ?
Ben oui, puisque le prochain, ouais, ce sera fin février, et d'accord, peut-être même en mars, donc ouais.
C'est ça. Et du coup, il y aura aussi une discussion sur Horror Story. Si on a dit des choses voilà, ouais, qui vous ont énervé, ou on est passé à côté d'un truc, vous êtes dit, ah non, c'est des triplés, je vais vous expliquer pourquoi.
Ça permet de résoudre le mystère des jumelles Olsen. Est-ce qu'elles sont encore en vie? Est-ce qu'elles sont toujours là?
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats autour de cette idée-là. On voit vraiment que les deux théories ressortaient dans les débats sur le salon. Donc voilà, rejoignez-nous. Le lien sera dans la description sur l'appli de votre choix. Et puis, on se retrouve donc dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Fin du Game.
Salut.
Salut.
Ciao.